Vous écoutez RTL.
Midi et demi.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Robière, Stéphane Carpentier.
Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver dans RTL Midi pour 90 minutes de grand direct où vous êtes comme d'habitude nos experts pour commenter toute l'actualité. Bonjour Christelle.
Bonjour à tous.
Vos appels dès maintenant, c'est au 3210, le standard vous est réservé. Vos avis, vos analyses attendues également sur la page Facebook. RTL, les auditeurs ont la parole, c'est votre émission. Vous écouter et dialoguer sont nos priorités. Christelle, l'actualité, c'est d'abord un homme activement recherché en Isère.
Il a foncé ce matin sur des militaires à Varsalières et Risset sans faire de blessés. Ça rappelle l'attentat terroriste de l'Aude il y a 6 jours. Nous irons aussi à Trèbes, justement à l'occasion des ultimes hommages en présence d'Édouard Philippe. Les obsèques des 4 victimes sont célébrées aujourd'hui. Dans RTL Midi aussi, les lunettes et prothèses auditives mieux remboursées, mais moins souvent. Le gouvernement promet le zéro reste à charge, mais il y aura sans doute des contreparties. Chef-d'œuvre en péril, le loto du patrimoine devrait permettre de sauver 256 sites à l'initiative de Stéphane Bern. Si vous connaissez près de chez vous des monuments qu'il faudrait restaurer d'urgence, témoignez au 3210 et racontez-nous aussi leur histoire, ça nous intéresse. La météo, bonjour Patricia Charbonnier.
Bonjour.
Ce serait bien qu'on retape aussi un peu l'anticyclone.
Ah oui, il est beaucoup trop loin chez lui aux Açores, donc le temps reste instable. C'est quand même moins instable qu'hier, avec le soleil qui devrait se maintenir cet après-midi encore sur les régions de l'Est et sur la moitié sud, mais les averses ne sont pas très loin. On a déjà eu de très fortes averses ce matin, parfois accompagnées de grésils et d'orages sur le nord-ouest, et ces averses vont progressivement gagner vers les Hauts-de-France cet après-midi et vers l'Île-de-France, et elles pourront être localement fortes avec de fortes rafales de vent. Et puis les températures sont toujours trop justes pour la saison. Cet après-midi, seulement 9 degrés à Brest, 11 degrés à Lille, 12 à Paris comme à Strasbourg, 17 à Nice et 19 degrés à Nîmes.
Et bien sûr, tous les détails avec Patricia. Rendez-vous juste avant 13h tout à l'heure. Après 13h, une histoire, c'est un jour sur la Terre, et à 13h50, pour le plaisir, un certain Laurent Gérard. La question du jour sur RTL.fr concerne l'usine Whirlpool d'Amiens. Le site va fermer et la direction a eu l'idée de proposer aux salariés comme ultime augmentation un sèche-linge. Pas d'argent mais un sèche-linge, les syndicats parlent de scandale. Vous êtes 71% à dire tout pareil. Est-ce du mépris de la part de la direction? Vos appels dès maintenant pour en parler tous ensemble avec une voix, à la différence de moi. C'est au 3210 que ça se passe et Christian est avec nous depuis la Seine-Maritime.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Je suis plus que choqué, je ne trouve pas les mots exacts pour qualifier ce manque de respect vis-à-vis des employés qui, fidèlement, pendant des années, ont travaillé, ont permis d'avoir du profit. En tant que chef d'entreprise, une petite entreprise, nous sommes une vingtaine de personnes, je suis catastrophé d'entendre des choses comme ça.
Appelez-nous au 3210. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
6 jours après l'attentat de Trèbes, un homme a foncé ce matin avec sa voiture sur des militaires à Varsalières et Risset, dans l'Isère, près de Grenoble. Il était tout près de la caserne de la ville. L'homme est actuellement en fuite. Les gendarmes ont bouclé la zone. Serge Pueyo, vous êtes sur place pour RTL. Que s'est-il passé exactement?
Alors, vers 8h, un homme au volant d'une 208 noire s'est présenté devant la caserne de Vars pour insulter un groupe de militaires qui revenaient de leur jogging. Puis, un instant plus tard, l'individu barbu de type nord-africain est revenu avec son véhicule et a foncé sur 2 militaires du 7e bataillon de chasseurs alpins. Ces derniers ont réussi à éviter de justesse le véhicule et se sont cachés derrière des voitures. Avant de repartir, l'homme a insulté de nouveau des militaires d'un deuxième groupe, des insultes proférées en arabe, puis il a pris la fuite. Il est toujours recherché actuellement par les forces de l'ordre. À Vars, les habitants et les enfants ont été confinés dans leur école une partie de la matinée. Marianne, une mère de famille.
Je suis un peu inquiète, ma fille est à l'école. On n'a pas eu de mail ni de SMS concernant le confinement. Donc du coup, je viens voir si je peux récupérer quand même. On ne sait pas si c'est un attentat, on ne sait pas si c'est un fou. Enfin, on ne sait rien. Donc effectivement, tout le monde peut être touché à tout moment. Donc forcément, on est un peu inquiet.
Voilà, le confinement a été levé dans les écoles. On ne sait pas s'il s'agit d'un acte terroriste. Seule la police judiciaire de Grenoble a été saisie, pas le parquet antiterroriste. L'homme est en fuite, sans doute avec une passagère. Il aurait fait de la prison et pourrait être armé.
Voilà les dernières informations de Serge Puyot pour RTL en Isère. L'heure des adieux donc à Trèbes ce matin. Un bon millier de personnes ont convergé vers l'une des grandes places du village pour saluer la mémoire d'Hervé Sosna, un client du Super U, de Christian Medves, le boucher, et de Jean Mazière, tué dans une voiture quelques minutes avant. Ils étaient l'antithèse de la violence et de l'obscurantisme, a rappelé à un maire la voix nouée, Patrick Hisson, par le chagrin.
Oui, ces propos sont ceux du maire de Trèbes, Éric Ménassy. Il a rendu un court et vibrant hommage devant les cercueils d'Hervé Sosna, Christian Medves et Jean Mazière.
À l'image du courage des familles et de leur dignité, si durement éprouvée, Trèbes, au sein de la République, restera debout et fière de ses valeurs. Hervé, Christian, Jean, mon colonel, les Trébéennes ne vous oublieront jamais.
Aux côtés des familles, le Premier ministre Édouard Philippe, le ministre de l'Intérieur et la garde des Sceaux ont ensuite déposé une rose blanche sur les trois cercueils avant une minute de silence et une Marseillaise interprétée par la chorale de Limoux. Et ce sont évidemment des Trébéens déchirés par la douleur qui ont quitté la cérémonie.
On s'attaque à des gens innocents comme ça, ils n'ont rien demandé les pauvres. On est très touchés, très émus et c'est dur.
Reportage Patrick Hisson et leurs obsèques seront célébrés aujourd'hui à Trèbes et un peu plus loin à Ville-d'Hubert. Au lendemain de l'hommage national à Arnaud Beltrame, une cérémonie d'obsèques plus intime ce matin à la cathédrale Saint-Michel de Carcassonne. Patrick Tégéreau, vous étiez parmi les anonymes massés autour de la cathédrale.
Oui, car cet office religieux n'est toujours pas terminé. Ça fait un peu plus d'une heure maintenant qu'il a débuté. La famille souhaitait que cet office ne soit pas public. Seuls quelques centaines d'invités étaient présents. Ministre de l'Intérieur, garde des Sceaux, représentants des autorités locales et beaucoup de militaires, dont une majorité de gendarmes. Il y avait aussi, et c'est beaucoup plus touchant, tous ceux, familles, amis, collègues, qui auraient dû assister au mariage religieux d'Arnaud Beltrame dans 2 mois. Le vaste périmètre de sécurité a tenu donc à l'écart des dizaines de Carcassonnais qui souhaitaient, eux aussi, rendre un dernier hommage au colonel Beltrame. Comme Sandrine, elle tenait absolument à être au plus près.
C'est important parce que ça nous concerne tous, ça peut arriver à tout le monde. Et puis ce qu'il a fait là, je pense que c'est pas n'importe qui pourrait le faire, qui aurait pu le faire. Pour moi, c'était important de venir lui rendre hommage, même si c'est à distance. Voilà.
Un petit peu plus loin, Josette, elle aussi, est très émue.
Voilà. Moi, c'est très très important pour les trois couleurs. Et j'ai même mis, je ne devrais pas le dire, un petit drapeau sur mon balcon. Je l'ai mis en berne, vous voyez. J'ai mis un ruban noir parce que ça me touche.
La cérémonie était présidée par l'évêque de Carcassonne et Narbonne et l'homélie a été prononcée par un père de la communauté traditionnaliste des chanoines de la Grâce. Cet ecclésiastique d'ailleurs devait célébrer le mariage religieux du colonel Beltrame en juin. Il lui a donné en fait les derniers sacrements samedi matin. Le cortège funéraire va bientôt prendre la direction du village de Ferras-les-Corbières où le colonel Beltrame résidait depuis cet été. Une tombe provisoire a été creusée pour lui dans le petit cimetière.
Patrick Tégéreau en direct de Carcassonne. Nordal Lelandais a bien été extrait de sa cellule, comme vous le révélait RTL ce matin. Elle doit être entendue à Chambéry par le juge chargé de l'enquête sur Arthur Noyer, ce jeune caporal de 23 ans que le Landais est soupçonné d'avoir assassiné. Il n'a reconnu pour l'instant que l'avoir pris en stop.
12h38 au chapitre social. Nous voici à 5 jours maintenant du début de la grande grève à la SNCF et c'est toujours le bras de fer entre la direction et la CGT. La compagnie fait savoir aux cheminots qu'il n'y aura aucune bienveillance sur le décompte des jours de grève. Au contraire, la direction veut compter aussi certains jours de repos des grévistes, ce qui, Éric Vanier, leur coûterait beaucoup plus cher.
Oui, aucun arrangement ne sera possible, précise une note envoyée au syndicat par la direction de la SNCF. Nous l'avons eu sous les yeux, il n'y aura pas d'étalement des retenues. Ce sera cash, 12 jours de grève en avril, c'est ce qui est prévu. Ce sera 12 fois 1/30 de salaire en moins sur la fiche de paye à la fin du mois. Il ne sera pas possible non plus de transformer les jours de grève en décompte de RTT ou de congés. Et effectivement, les jours de repos qui suivront les périodes de 48 heures de grève ne seront pas payés si... 3 jours plus tard, le cheminot repique sur 2 jours de grève. Pour la direction, les absences pendant cette trêve de 3 jours seront considérées comme la continuité du mouvement, à moins que le gréviste déclare clairement qu'il n'a pas l'intention de refaire grève.
Et alors, question, Eric, est-ce que c'est légal ?
Alors, ça promet une belle bataille juridique. Les syndicats vont sans doute saisir l'inspection du travail ou la justice dès cet après-midi. La direction fait valoir qu'un préavis permanent 7 jours sur 7 a été déposé par Sudrail jusqu'en juin. Preuve qu'il s'agit bien d'un mouvement en continu et pas d'une succession de préavis de grève. Les 3 autres syndicats, CGT, UNSA et CFDT, vont expliquer, eux, de leur côté, qu'ils n'ont déposé pour l'instant qu'un seul préavis, celui qui couvre la période des 3 et 4 avril. Aucune raison donc de pénaliser les cheminots les jours suivants et de parler d'un mouvement compact de 3 mois.
Voilà qui est beaucoup plus clair. Décryptage signé Éric Vanier et vos appréciations, vos sentiments. Vous êtes les bienvenus, vous prenez votre téléphone, vous nous joignez au 3210 3210 et on peut en parler tous ensemble.
Il y a de l'ambiance aussi du côté d'Air France. Les syndicats de pilotes ont quitté au bout de 40 minutes seulement ce matin les négociations salariales. Ils réclament toujours une augmentation de 6%. Prenez vos précautions. Il y a grève demain, mais aussi les 3 et 7 avril. Dans un instant, un sèche-linge en guise d'augmentation de salaire.
RTL Midi.
Stéphane Carpentier, Christelle Robière.
Pas d'ultime augmentation chez Whirlpool à Amiens. L'usine fermera de toute façon fin mai. Les syndicats réclamaient 700 euros mensuels. À la place, la direction leur offre un sèche-linge, un appareil qu'ils connaissent bien puisqu'ils le fabriquent. Ils estiment même sa valeur à 100 euros pièce. Franck Hanson, vous êtes à Amiens pour RTL où cette proposition a chauffé les esprits.
Oui, devant l'usine qui tourne encore pour quelques mois, les ouvriers en rient presque, tellement cette proposition de la direction peut surprendre. Au moins chez Whirlpool, ils innovent, on se sent méprisé jusqu'au bout, dénonce François Gorlia de la CGT.
Pour moi, ce n'est pas des négociations salariales, on dit bien salariales, donc salaire, hein. c'est pas du bien qu'on donne. Hein. C'est se foutre de la gueule des salariés. Hein. Bah, là, oui, on est des marchands de tapis pratiquement. Là, si, comme on disait hier, on travaillerait en boucherie, on aurait eu un roast beef, là aujourd'hui, on a un sèche-linge. Les pompes funèbres, on aurait eu un cercueil. Ou peu importe.
Le climat social était pourtant revenu au calme sur le site Picard, revendu à un industriel de la région. Le groupe américain avait les moyens de faire un dernier geste, s'indigne Frédéric Chantrel, délégué CFDT.
Avoir un produit à des négociations, ça s'est jamais vu. Surtout, on parle quand même de la multinationale Whirlpool, hein, qui engendre des millions de dollars de bénéfices, d'actions. Et malheureusement, nous, on ferme alors qu'on est quand même la meilleure usine d'Europe. Le sèche-linge, ils auraient même pas dû en parler et le donner à la fermeture. C'était légitime.
La balle est maintenant dans le camp de la direction. À Amiens, de nouvelles réunions de négociations sont prévues pour la mi-avril.
Merci Franck Hanson. Et vous, dites-nous au 3210 dès maintenant vos appels, ce que vous pensez de cette proposition assez inédite. Est-ce que vous êtes scandalisé, choqué? Vos appels 3210, vos sentiments sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole.
Le doyen de la fac de droit de Montpellier, un professeur suspendu ce matin de leurs fonctions. Ils sont accusés par plusieurs témoins d'avoir facilité ou pris part à l'expédition punitive menée par des hommes cagoulés contre des étudiants grévistes la semaine dernière. C'est une décision, cette suspension, de la ministre de l'Enseignement supérieur qui s'inquiète du mouvement de blocage qui se multiplie en ce moment dans les universités.
Zéro reste à charge sur les lunettes et les prothèses auditives. Le candidat Emmanuel Macron l'avait promis, mais figurez-vous que la promesse coûtera cher. Les négociations sont en cours entre les professionnels et la sécurité sociale. Le but serait de rembourser mieux, plus de monde, mais du coup, Anaïs Bouissou, moins souvent.
Oui, c'est en tout cas la version officielle. Aujourd'hui, l'écrasante majorité des Français doit payer de sa poche 850 euros pour des prothèses auditives et entre 300 et 600 euros pour des lunettes, selon l'UFC Que Choisir. Là, les discussions s'orientent vers des remboursements pour plus de monde, on évoque 7 patients sur 10 remboursés pour les soins d'audition et plus de choix pour les verres de lunettes, unifocaux, multifocaux, des traitements anti-reflets, anti-rayures, etc. Mais en échange, la contrepartie, c'est des remboursements moins souvent, tous les 3 ans au lieu de 2 pour les lunettes et tous les 5 ans pour les prothèses auditives.
Donc on comprend que les professionnels vont devoir faire un effort.
Oui, alors le ministère de la Santé indique que les discussions sont toujours en cours, que les budgets, les chiffrages exacts ne sont pas encore arrêtés. Mais les professionnels s'insurgent déjà parce qu'ils le savent. Ils vont devoir rogner sur leurs marges et sur leurs chiffres d'affaires. Alain Gerbel représente la Fédération nationale des opticiens de France.
L'ensemble de la mesure sera financée par les opticiens. Il n'y a pas d'aide d'État. Le financement sécurité sociale sera le même, pas de coup de pouce. Et l'ensemble de la mesure, l'essentiel de la mesure, sera financé par les professionnels. C'est une mesure qui a été annoncée dans une campagne électorale. Je pensais qu'elle avait été budgétée.
Les prix détaillés des remboursements seront proposés par l'administration dans les prochains jours, début avril.
Merci Anaïs Bouissou. Alors, accepteriez-vous que vos lunettes ne soient remboursées que tous les 3 ans au lieu de 2? On va en parler tous ensemble. Dialogue ouvert dès maintenant. Ça se passe au 3210 pour vos témoignages et vos sentiments.
L'excellence à la française doit concerner aussi l'intelligence artificielle. Emmanuel Macron présente aujourd'hui un plan ambitieux pour développer cette nouvelle technologie, véritable révolution industrielle de ce début de 21e siècle. Martial Liu, l'exécutif retient 3 axes, la santé, les services publics et les start-up.
Oui, le but est de venir prendre une place entre les 2 gros mastodontes que sont les États-Unis et la Chine, autrement dit, se faire une place entre Amazon et Alibaba. La qualité de nos ingénieurs et de nos chercheurs est reconnue dans le monde entier, mais la plupart du temps, ils finissent par faire carrière dans la Silicon Valley. Donc on va travailler ce qu'on appelle notamment la deep tech. Ce sont les chercheurs qui travaillent dans les grands centres comme le CNRS, par exemple, chez nous, ils ont parfois des technologies géniales qui restent dans nos laboratoires. Bah là, on va les aider à passer du public au privé et on va les former pour devenir des businessmen autant que des chercheurs, ce qui est déjà une révolution en soi. Quelques exemples des atouts français. Dans la santé, vous le disiez, on va développer la médecine prédictive. Ce sont des machines intelligentes qui vont être capables de prendre vos antécédents familiaux, faire une prise de sang, analyser des tonnes de données physiques pour détecter un risque de maladie grave à plus ou moins long terme. Par exemple, exemple chez vous. L'intelligence artificielle en France est aussi très développée dans l'agriculture parce que nous sommes un pays agricole. Pour optimiser les besoins en eau à partir de la météo, du sol, de la géographie. Ce sont donc là quelques exemples où la France est déjà vue comme une spécialiste mondiale. L'idée maintenant, c'est aussi d'attirer les géants chez nous et ça marche puisque dès hier, Samsung a annoncé qu'il allait implanter son troisième plus gros centre mondial de recherche en France avec à la clé une centaine de chercheurs.
Martial You, le chiffre du jour nous vient d'Allemagne, 5,3%. C'est le taux de chômage au mois de mars, son plus bas niveau depuis la réunification du pays il y a 28 ans. Plusieurs régions sont déjà en situation de plein emploi. En Égypte, le président Al-Sissi réélu avec plus de 90% des voix. Premières estimations publiées par la presse d'État. Un score sans surprise. Ce qui est plus intéressant, c'est le taux de participation inférieur à 50%. Un électeur sur deux au moins a donc boudé les urnes.
Bonne route à vous, bon appétit si vous nous écoutez. Il est 12h48, la suite de RTL Midi dans un instant. Il y a urgence, figurez-vous, à sauver notre patrimoine. A tout de suite.
RTL Midi. Stéphane Carpentier, Christelle Robière.
RTL Midi, c'est l'actualité en direct, vous le savez. On rejoint l'Isère et Serge Puyot, notre correspondant. Serge, on vient d'interpeller l'homme suspecté d'avoir foncé sur des militaires ce matin.
Oui, l'homme aurait été effectivement arrêté dans le quartier de la Villeneuve de Grenoble, donc un des quartiers chauds de la capitale des Alpes. On ne connaît pas encore les circonstances de son interpellation. A priori, il devait être accompagné d'une passagère. En tout cas, ce sont les premiers témoignages qui étaient revenus aux oreilles des enquêteurs concernant effectivement les individus et les personnes qui étaient présentes dans ce véhicule. Et donc, l'homme a été interpellé, je vous confirme l'information, confirmée de source judiciaire ici à Grenoble, interpellé. Et on en saura peut-être plus dans les heures qui viennent sur ses motivations à foncer sur des militaires de la caserne de Vars en tout début de matinée.
Merci beaucoup Serge Payot depuis Grenoble pour RTL.
Venons-en à ces chefs-d'œuvre en péril. Le magazine Le Point, en partenariat avec RTL, publie donc ce matin la liste de 250 sites historiques pressentis pour être rénovés à l'initiative de Monsieur Patrimoine alias Stéphane Bern. Un tirage du loto spécial au moment de la journée du patrimoine devrait permettre de récolter entre 15 et 20 millions d'euros. Et ne croyez pas qu'il n'y a que des châteaux ou des abbayes. Au contraire, ça peut être aussi un lavoir, un vieux pont, un théâtre. À Rochefort, par exemple, il est urgent de sauver la maison de Pierre Loti. L'écrivain voyageur avait fait de sa maison familiale, donc en Charente-Maritime, une invitation au voyage. Reportage Philippe de Maria.
Rue Pierre Loti, forcément la maison de l'écrivain est en pierre blanche, elle ne se visite plus, trop dangereux.
On est fermé depuis 2012 à cause des conditions de sécurité, ça devenait un peu compliqué de continuer à faire visiter la maison.
David Baudin, le directeur adjoint du service culturel de Rochefort.
Le passage de plusieurs milliers de visiteurs par an dans les années 90 notamment, on est parfois monté jusqu'à 40 000 visiteurs par an, a beaucoup fragilisé la maison.
L'écrivain, marin, décorateur a transformé littéralement sa maison familiale avec une salle Renaissance, une autre moyenâgeuse et même une mosquée avec colonnes de marbre et un plafond en bois sculpté.
Ce plafond, il vient de Syrie, de Damas, que Loti a rapporté lors d'un de ses voyages. Plafond qui aujourd'hui est dans un état assez inquiétant.
Florence Lecossois, adjointe à la culture.
La maison se fatigue, c'est une vieille dame très fragile et qui mérite de notre part toute notre attention.
500 000 euros pour le seul plafond oriental, plus de 10 millions pour rouvrir enfin la maison de Pierre Loti. La municipalité de Rochefort frappe désormais à toutes les portes pour sauver son trésor menacé.
Reportage Philippe de Maria. Alors pour aller plus loin, nous sommes avec Didier Rickner, directeur de la Tribune de l'Art. Bonjour.
Bonjour.
Comment tous ces monuments, Didier Rickner, se sont retrouvés dans cet état ? La France oublie son patrimoine ?
Je le crains un peu, effectivement. C'est une question à la fois de moyens et de volonté. Et les moyens découlent de la volonté qui n'existe pas vraiment. Et comme le disait d'ailleurs Stéphane Bern dans ce numéro du Point, il parle de l'entretien, ce matin d'ailleurs sur RTL, il parle de questions d'entretien. Si on n'entretient pas, ça coûte après beaucoup plus cher, ça tombe en morceaux, ça coûte plus cher, et finalement c'est une espèce de cercle vicieux qu'ils instaurent, et on ne peut plus rattraper ce qui s'est écroulé.
Qui est fautif ?
L'État est fautif. L'État est très largement fautif parce que c'est, à mon avis, un devoir régalien de l'État d'entretenir son patrimoine. C'est également les collectivités territoriales, souvent, qui se désintéressent de la question. Et il faut ne pas oublier que non seulement on ne restaure pas, mais des fois on détruit.
Oui. Alors, il y a une autre question aussi. Il faut peut-être revoir de manière urgente les priorités. 466 millions d'euros vont être consacrés à la restauration du Grand Palais à Paris, alors que le patrimoine en zone rurale tombe en ruine.
Alors, au moins, c'est un bâtiment historique qui va être restauré. Mais quand on pense, par exemple, que le Pass Culture, c'est 400 millions d'euros qu'on trouve comme ça, alors qu'on n'a pas d'argent, et qu'on lit que la cathédrale Notre-Dame, c'est 150 millions d'euros qu'il faut, et qu'on ne les trouve pas.
Oui. Et que le loto, ça va ramener entre 15 et 20 millions.
Exactement.
Pas plus, quand même. C'est pas non plus la panacée. C'est quelque chose, mais ça va pas suffire.
Tout à fait. la cathédrale Notre-Dame, on pourrait la restaurer sur 10 ans, ça ferait 15 millions d'euros par an. On ne peut pas trouver 15 millions d'euros par an pour restaurer la cathédrale Notre-Dame, je n'y crois pas. D'autant que le budget consacré aux monuments historiques, je dis bien les monuments historiques, sur le budget total de la culture, c'est 3%. Mm-hmm. 300 millions sur 10 milliards. Donc l'argent, on l'a.
Comment convaincre chaque Français que nous sommes de s'impliquer ?
Je pense que les Français, si on parle du patrimoine, ils s'impliqueront. D'ailleurs, on le voit là. Ce n'est pas les Français qu'il faut convaincre. C'est vraiment le gouvernement, c'est vraiment les élus qu'il faut les persuader que c'est absolument essentiel pour notre pays d'avoir un patrimoine qui soit en bon état.
Merci beaucoup Didier Ricknert, merci d'avoir été notre invité et nous vous attendons évidemment au 3210 et sur notre page Facebook, les auditeurs ont la parole. Si vous avez près de chez vous un petit chef-d'œuvre en péril comme ça, appelez-nous, parlez-nous-en et puis racontez-nous aussi son histoire si vous le souhaitez.
3210, vous êtes les bienvenus évidemment. On peut parler d'un autre sujet, d'un autre chef-d'œuvre qui est en péril, c'est par exemple ceci, regardez, écoutez. C'est le slow quoi.
Bah oui, le slow. Bah figurez-vous que c'est un flop chez les jeunes en ce moment. À Paris, il y a un spectacle baptisé L'âge du slow qui va célébrer ce genre durant 3 jours. Est-ce que vous le regrettez, ce slow ? Dites-nous au 3210, quel slow a marqué votre génération ? Et puis racontez-nous aussi vos souvenirs entre pelle et râteau.
Avec l'Hôtel California. Hein. Pas mal le pelle et râteau. Vous êtes les bienvenus. Ça, c'était le slow préféré de Christelle Robière. Elle a des grands souvenirs.
Je le hais.
En plus, c'est la version longue, pas loin de 7 minutes. Donc vous imaginez
c'est
un petit peu.
C'est un enfer.
3210, vos prises de parole, vous êtes les bienvenus. On va parler de ce sujet léger, mais ça va nous faire du bien au regard de l'actualité. Vous êtes les bienvenus, le standard est disponible. 3210, le ciel, Patricia, les détails juste après ça.